19h-20h. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nouvelle semaine qui commence avec votre émission Time Sport, votre quotidienne sportive en ce lundi 26 avril. Auditrice de Beurre FM et auditeur, réagissez avec toute l'équipe, on le rappelle, comme chaque semaine, avec le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et aussi sur la Twittosphère avec toute l'équipe. Au menu de l'émission, Lille a désormais une autoroute devant lui pour finir champion. On accueillera exceptionnellement Cyril Benzaken, le grand champion, qui sera avec nous dès ce soir. Sans oublier Nadal, de retour et encore favori pour cette saison sur terre battue, et notre pronostic justement pour cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, avec le Real Chelsea et le PSG Manchester City. C'est parti, Google Time Sport.
Time Sport.
Soir avec moi pour m'accompagner, on aura Boula, sans oublier Viknesh. Comment ça va, Viknesh?
Salut Bilal, salut tout le monde, ravi d'être là pour commencer la semaine, ça fait plaisir.
Ah ben nous aussi, ça fait plaisir, d'autant plus d'avoir notre consultante Frédéric. Comment ça va, Frédéric?
Ben ça va, au top, ravi d'être avec vous tous.
Oui, le coach Tolé est là aussi, comment ça va?
Bonsoir
le coach?
Tout le monde, ça va, impeccable, bien.
Ah, bien, bien, bien. Ah,
toujours nous... content d'être là.
Ah ben nous aussi, tu nous rappelles un certain Ruud Gullit, aïe aïe aïe, les vrais reconnaîtront cela. Et Fred est avec nous ce soir, comment ça va, Fred?
Bonsoir Bilal, écoute. Super, ravi de recevoir Cyril Benzaken.
Aussi, Cyril Benzaken, encore une fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission Time Sport. Comment ça va, Cyril?
Bah, ça va très bien, merci de m'accueillir.
Ah ben nous aussi, sorti tout droit de l'entraînement, c'est ça, Cyril?
Exactement, voilà, il y en a qui sortent du jeûne, moi je sors de l'entraînement.
Ah, c'est super, voilà, il a une pensée pour tout le monde. Il est toujours assez sympa, Cyril. Mais pour le moment, on va s'intéresser, sur la fameuse Ligue 1 Uber Eats avec les Lillois.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Eh oui, Lille lancée vers le titre. Lyon privé peut-être de Ligue des Champions dès la saison prochaine. Le coach Tolé, les Lillois, c'est beau et c'est fort.
C'est grand.
Ouais, c'est grand, oui, tel est le mot.
C'est grand, il ne faut pas oublier que lorsque Galtier est arrivé à Lille, ça flirtait la relégation. Ils étaient 17e. On pensait que le LOSC allait même
rétrograder.
Il a su de manière spectaculaire redresser le LOSC, comme il a su de manière spectaculaire apporter une régularité lorsqu'il était à l'AS Saint-Etienne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des 2-3 meilleurs techniciens français en termes de régularité. En tout cas, il le montre. Il n'a pas le meilleur effectif, mais en tout cas, ils ont été capables de recruter extrêmement malin. Moi, quand je vois un gars de 35 ans comme Ilmaz, que Lille va chercher, il n'y a pas beaucoup de clubs français qui auraient flairé la mise. Et quand tu vois, quand tu vois le match d'hier de Lille, quand tu vois le match nul qu'ils ont été faire à Monaco miraculeusement, mais quand même, quand tu vois la victoire gagnée au Parc, ce sont des matchs à l'extérieur contre les concurrents directs. Quand tu vois ce qu'il en reste, Lille pour moi mérite d'être champion.
Peut-être. Ah oui, selon toi. Parler,
mais par rapport
Lillois.
À ce que Lille a, ils sont en concurrence avec le PSG. Ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire.
Le PSG sur tous les tableaux, il faut le rappeler aussi. Et dans ce dernier carré de la Champions League, Fred, les Lillois de Galtier, c'est l'homme du moment, Galtier, on en parle. Peut-être successeur de Didier Deschamps aussi.
Ah, c'est une belle question. C'est vrai que Christophe Galtier, c'est un des meilleurs techniciens français. Claude t'a rappelé de très bonnes choses. C'est vrai qu'au début, le projet Lillois avec
Gérard. De vraies choses, surtout.
Ouais.
De
vraies choses. Là, là, là.
Parce que c'est vrai qu'au début, le projet Lillois avec Gérard Lopez, c'était très inquiétant. Il frôlait la relégation. Il menaçait d'être rétrogradé économiquement. Ouais. Aujourd'hui, il joue le titre de Ligue 1. Tu l'as dit, t'as parlé de Burak Yılmaz. Vous savez que Luis Campos était resté 10 jours en Turquie pour le faire venir. 10 jours en Turquie pour faire venir un attaquant de 35 ans qui a jamais joué en dehors qu'en Turquie. C'est une très belle saison ce qu'ils font. Après, il y a Monaco, pour moi, il m'impressionne. Je pense sincèrement que Monaco et l'équipe, c'est sur ces 3-4 derniers mois qui jouent le mieux, qui proposent le plus beau football. Lille, on peut pas encore dire aujourd'hui qu'ils ont gagné le titre. Il reste 4 journées. Il y a le Paris Saint-Germain qui revient fort. Ça sera une sorte de mort subite et il y aura des matchs à Lens et cela faudra les gagner.
Oui, Frédéric. Les Lillois.
Je pense que c'est la seule équipe là,
et le
du
titre
top 4.
De champion.
Ils ont battu Lyon, ils ont battu le PSG,
ils ont battu
Monaco, et ils ont perdu, et ils ont battu contre aucune des 3 autres équipes. Donc ce que Lille fait hier, c'est exceptionnel, surtout à Lyon. Tu reviens comme ça, on a parlé d'Yılmaz, qui n'a rien coûté à Lille, il arrive gratuitement, il te plante 2 buts, dont un coup franc exceptionnel hier, une passe décisive, mais on a souligné le travail de Galtier. De l'autre côté, il faut que je tacle Garcia. Parce que cette équipe de Lyon, elle fait une deuxième partie de saison qui est absolument catastrophique. Ils étaient très bien partis. Là, on sent que cette équipe n'a pas la capacité de revenir. Ils ont pris un gros coup derrière la tête hier. Psychologiquement, c'est pas bon. Moi, je pense qu'ils vont finir quatrième. Ils sont à 4 points de Monaco. Je crois que ça va être compliqué pour eux de revenir. footballistiquement parlant, j'ai pas l'impression qu'ils aient les moyens de revenir. On a vu aussi que physiquement, ils ont plongé. Donc bravo à Lille. Comme disait Fred, il va falloir aller à Lens. C'est pas des matchs faciles. Ils jouent Nice. Ils jouent Angers, mais je pense que si Lille est champion, ce serait légitime. Ils méritent ce titre largement, mais attention, le PSG va passer ses fers.
Aïe, 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 après, Vignesh, le PSG est toujours là. On va revenir à toi.
Bah, surtout que le PSG reste là, ils reviennent en force, surtout
ils
parce
sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions aussi.
Ça, ils sont aussi en finale de la Coupe, donc aussi. Le PSG, ils sont partout. Et là, ils reviennent, parce que là, ils ont l'effectif qui est complet. Il n'y a plus de blessures à part Bernat. Donc ça, c'est bon signe pour terminer la saison, avoir l'effectif entièrement avec des joueurs qui sont en forme en plus. Sarabia, Draxler qui sont en forme, donc ça c'est intéressant. Et pour revenir sur Lille, Lille en fait, on voit que l'effectif il est solide. Chaque joueur peut remplacer un autre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ilmaz, on voit que c'est un cadre, comme Benjamin André, Font, les trois, c'est trois leaders sur le terrain et même en dehors. Je pense que c'est à la mi-temps, ça fait la différence. Parce qu'ils sont revenus à 2-1 juste avant la mi-temps et ils se sont dit qu'ils pouvaient faire la différence et ils l'ont fait. Surtout que Lyon, chaque fois, ils jouent juste une seule mi-temps. Chaque fois, ils jouent que 45 minutes. Ils oublient de jouer l'autre période. Donc à ce niveau-là, ils ont su faire la différence. Et on voit surtout à la fin du match, la réaction qu'ils ont eu des Lillois, on voit qu'ils sont venus de nulle part. Ils sont contents comme si tu as gagné le titre, alors que ce n'est pas encore fait, mine de rien. Mais l'exploit qu'ils font de battre le PSG, Monaco et Lyon, ça montre que cette équipe, elle a du potentiel, elle a de la qualité. Elle peut le faire, mais il ne faut pas oublier qu'elle PSG qui est là.
Elle a du caractère, elle a, ouais, du
elle a énormément
surtout.
De caractère. Ouais, avec Galtier qui arrive à inculquer ça. Galtier, il arrive à inculquer ça avec ses leaders, ils arrivent à faire la différence. Et quand il y en a un qui sort, on voit que Sanchez, quand il sort, mais il est déçu, il est énervé. Et quand le match se termine, il saute sur Galtier. Donc on voit que l'effectif, il est solide. Chacun se soutient et c'est ça la force de cette équipe-là.
Oui, Boula, c'est Lillois. Face aux Lyonnais, au Paris Saint-Germain.
Ouais. Et c'est ce qui fait la différence d'un club au niveau de la gestion. C'est ce qui fait la différence d'un club au niveau de la gestion. Et cette gestion, elle est faite en harmonie avec Lopez, Campos et Galtier. Et le fruit du travail d'une équipe, c'est ça, je reviens à ce que Fred disait, c'est très très important quand Campos il va 10 jours en Turquie pour aller chercher le joueur qu'il faut entourer ses jeunes qui ont eu de l'expérience et qui ont de la bouteille. Après, Frédéric qui dit, c'est vrai qu'il est arrivé libre, mais je pense qu'au niveau salaire, ils ont mis le salaire en conséquence par rapport à sa venue. Et tu sens aujourd'hui comment il apporte. C'est un meneur d'hommes, un gagneur, et ça plonge. Et les jeunes, ils le suivent dans ce tempo-là.
Ouais.
C'est ce qui fait la différence.
Et là, ce leadership en lui.
Ce qui fait peur à Lille, c'est le nouveau président.
Mmh. Le nouveau président, selon toi ?
Parce qu'il n'y a pas du tout la même philosophie de travail.
Ah, Fred, tu es d'accord avec lui ?
Non, après Olivier Letang, c'est un personnage assez clivant dans le football français. Il a quand même beaucoup d'expérience. Il est passé par Paris Saint-Germain, il est passé récemment par Rennes. C'est vrai que Luis Campos a fait beaucoup dans cet effectif. Comme Claude le disait au début, il avait des problèmes financiers et il a dû trouver des joueurs qu'il a réussi à vendre à gros prix, comme Thiago Mendes, comme Nicolas Pepe, entre autres. Là, Luis Campos n'est plus là. Il va falloir être bon parce qu'ils vont devoir vendre, je pense. Et il va falloir trouver des joueurs. Alors que le projet de Monaco, il me paraît beaucoup plus stable et. Moi, je réfléchis en vue de la saison prochaine, là, pour
après,
le coup.
Quand tu parles d'Olivier Letang, moi, je connais bien le personnage.
Ouais.
J'ai vu que ce qui s'est passé à Rennes avec Sabri Lamouchi, qui avait construit cette équipe dans la continuité.
Il a essayé de faire du bon boulot, c'est vrai.
Et c'est Letang qui a. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de virer pas mal de gens.
Et il place les mecs.
Voilà.
Comme partout, il a toujours fait ça.
Tout le temps.
Bah oui.
Comme Bangam, comme le directeur sportif.
Bien sûr.
Et là, tu rentres dans un truc où c'est pas les entraîneurs, c'est pas le directeur sportif, c'est les entraîneurs qui gèrent. Et ce qui est bien, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il vise la première place et Galtier, il a presque un fin de son contrat.
Ouais.
Normalement, quand tu as un entraîneur qui joue le titre, qu'est-ce que tu fais? Tu le prolonges. Je préfère encore la rigueur qu'il reste à Lille pour l'équilibre du club.
Ou pourquoi pas une aventure à l'étranger? Tu l'enverrais où? Galtier.
Après, Galtier,
c'est
au niveau des langues.
À Lyon.
Après,
ça parle.
Ouais. À Lyon.
Au niveau des langues.
Ouais. Ça, c'est pas un problème.
Les entraîneurs français,
ça va être compliqué.
Regarde Pochettino, il parle pas français.
Voilà.
Si, quand même, Pochettino, il parle. Pochettino, il parle français.
Un petit peu. Arrête, toi aussi.
Il parle plus français que Galtier qui parle allemand.
Il a joué en France, Pochettino. Il est venu en France.
Il a joué.
Pour un joueur qui a joué en France et qui parle pas français.
Mais regarde les joueurs. Alors, ils apprennent les langues.
Tu veux te
mettre les entraîneurs pour parler.
Oui, c'est pareil, heureusement.
Carlo Ancelotti, il fait le nécessaire pour parler les langues.
tous les entraîneurs étrangers, ils font
le nécessaire. Galtier le fera.
Mais bien sûr. Pochettino, il n'a pas fait le nécessaire pour parler français quand il était joueur au PSG.
Si, il parlait français.
Alors, moi, quand je vois Marquinhos.
Oui.
Quand je le vois parler français, tu sens que l'intégration psychologiquement, il est fait vite. Et aujourd'hui,
toi, tu doutes que Galtier puisse s'intégrer s'il part dans un club à l'étranger.
Après, s'il va en Russie, c'est
pas pour elle, c'est des langues. Ouais. Faire passer les messages. C'est un meneur d'hommes, c'est un grand entraîneur, certes, en France. Là, il peut répondre au président de l'OM, soi-disant que les entraîneurs français ne sont pas bons, mais lui, la différence, avec son budget, il est premier au classement. Et les autres, quand tu critiques l'entraîneur français, l'entraîneur français, il a autant de qualité que des entraîneurs étrangers.
Oui, il critiquait pas l'entraîneur français.
Alors le coach de Tolède.
Il critiquait le système.
Le système français.
La formation française.
Écoute-moi, si tu me dis le système. Si tu me dis le système de la formation française, le plus grand marché en Europe, il est en France. Ouais. Aujourd'hui, mais quand tu regardes.
Le plus grand marché de joueurs, je veux dire, pas de entraîneurs.
Celui qui donne la Ligue des Champions au Bayern l'année dernière.
C'est Kingsley Coman.
Qui a été formé en France.
Oui, mais là, on parle des joueurs.
Le paradoxe, c'est qu'on est.
T'es d'accord, tant mieux, alors.
Ouais.
Au revoir.
Tu es coach, toi, la formation des coachs.
On a un marché extraordinaire, mais la qualité de jeu, elle est catastrophique.
Ah, ben là, aussi. On va en parler. Bien sûr. Vas-y, le coach Tolé. Moula, laisse-le terminer.
Quand tu parles de la formation des coachs, c'est sûr que quand tu vois un mec comme Domenech qui dit il faut un certain âge pour entraîner, et puis il faut un certain âge pour entraîner, et lui, à son âge, Et ce démago, il continue à vouloir entraîner.
Bon,
et il a viré quelqu'un qui avait le même âge pour entraîner.
Oui, puisque Domenech a fini à Nantes, pardon. Donc, pour revenir à ce que Claude disait, on nous parle du jeu français qui n'est pas. Oui, d'accord, on brille pas par une qualité de jeu, mais on brille quand même par nos résultats. Enfin, on a été champion du monde.
Mais ça, c'est l'excuse, tout le monde sort ça. Arrêtez de dire ça. Il y en a un qui réussit ou deux.
Je suis d'accord, mais je pense qu'on a une qualité intrinsèque qui est exceptionnelle par rapport à d'autres régions du monde. Maintenant, la réalité, c'est notre quotidien, c'est le championnat de France. Ça, c'est une réalité. Le vivier, il est là. Honnêtement,
on a un entraîneur français qui a gagné 3 Ligues des Champions.
Ouais. Mais je suis d'accord.
Aussi, on a un entraîneur français qui a gagné la Coupe du Monde.
Mais je comprends pas.
Tu t'es ennuyé pendant le match d'hier?
Pendant côté Lyon aussi.
Les amis.
Soit tu joues pour le spectacle, soit tu joues pour la gamme.
Alors, Moula, on va écouter Fred et aussi Viknesh. Alors, vas-y, Fred.
Moi, je vais vous dire trois choses, ça va être rapide.
Alors,
la première chose, c'est qu'en France, c'est vrai, on prône pas un style de jeu à la formation. Les joueurs français à l'étranger, ce qu'ils ont bien, et c'est pour ça qu'ils cotent, c'est que physiquement, ils sont aptes. Techniquement, ils sont prêts. Et tactiquement, ils sont prêts. C'est des joueurs qui sont assez complets. Il n'y a pas un joueur à la française. C'est des joueurs qui sont complets, qui peuvent faire pas mal de choses. Concernant la formation des coachs, c'est vrai que la tradition en France, c'est un peu le jeu des chaises musicales. C'est un coach qui va dans un tel club, après il change dans d'autres clubs, et le système il tourne pas. Après, Claude, tu disais, ouais, c'est vrai que le championnat.
Mais il faut recruter le coach Tolé.
C'est pas le championnat pour
avoir. Je suis sérieux.
Mais c'est vrai que dans tous les autres championnats, que dans les 5 grands championnats, on peut voir que la qualité de jeu a fortement régressé. C'est pas que en France que le jeu n'est pas le plus beau.
Si la qualité y est plus. C'est parce que quand tu vois des joueurs qui valent. Non, mais quand tu vois des joueurs de qualité, potentiel technique, on dit, ouais, il fait 1m60, 70, il passera pas. N'Golo Kanté, il passera pas, mais tous les clubs de. Le problème, c'est qu'en France, t'as un football qui est très athlétique, qui est basé que sur le physique. Aujourd'hui, on n'aime pas trop. En France, on n'aime pas trop les techniciens. C'est sûr que quand on a gagné la Coupe du Monde, on l'a gagné tactiquement avec un plan tactique au niveau défensif. Dans la qualité offensif, on a des joueurs qui sont exceptionnels techniquement. Et ces joueurs-là, tu prends un joueur comme la Gazette, techniquement, c'est
la Gazette, le Gunner, c'est magnifique. Viknesh, on t'écoute.
Il faut terminer dessus sur ce sujet. Moi, on parle des entraîneurs français, etc. Le problème des entraîneurs français, c'est qu'ils veulent pas perdre avant tout. Ils ont pas de stratégie ou de style de jeu particulier. Ils jouent pour ne pas perdre. C'est ça le problème, tout d'abord. Et après, on parle des entraîneurs français, etc. Mais combien s'exportent, en fait? Combien entraînent en Angleterre, en Allemagne, en Portugal?
Il n'y en a pas beaucoup.
Moi, je veux bien une liste, mais bon, on va pas aller bien loin. Donc, à ce niveau-là. Voilà.
Mais bien sûr qu'il n'y a pas
5. Après, c'est ça. C'est ça, on parle que des entraîneurs. Après, on parle de Zidane, Deschamps qui ont gagné. Ok, il y en a deux. Et c'était les deux meilleurs. Les autres à côté, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les autres, il n'y a personne. C'est ça le problème. C'est comme à l'époque, on parlait de, bah, du jeu portugais avec Cristiano Ronaldo qui était le meilleur joueur du monde, mais il n'y avait personne d'autre derrière lui. Donc là, on, les entraîneurs français, c'est la même chose. Ouais, il y en a deux qui brillent et après, il n'y a personne.
Pourquoi il y a beaucoup de coachs italiens en première ligue? Il y a beaucoup de coachs allemands en première ligue.
Mais il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Allemands et italiens, il y en a pas mal qui sont passés. Et Tourelle, il y a Klopp, il y en a pas mal deux, tu vois. C'est déjà pas mal.
C'est vrai qu'en France.
Mais il n'y a personne. À part Garcia et Tourelle qui
viennent. Garcia, Zidane.
C'est tout. Dans les salles de la Zidane, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a personne.
Alors, souvent, les clubs étrangers recrutent des coachs qui ont un certain palmarès ou qui viennent des coachs.
Et un style aussi.
Un style de jeu. Il faut savoir qu'évidemment, en France, on n'a pas encore gagné de Champions League, on ne gagne pas d'Europa League, donc on n'a pas de coach français.
On n'a pas de style non plus, donc c'est compliqué.
Qui peut s'importer facilement.
Il y a Wenger quand même.
Mais pour autant, oui, il y a Wenger. Mais pour autant, on n'est pas non plus derrière tout le monde. Je trouve qu'on a une façon de se dévaloriser.
Bah non, on est juste.
Je trouve qu'on est quand même une grande nation de football. On est craint partout dans le monde, mais chez nous, à nous écouter. Tous les joueurs qui viennent jouer au championnat de France, c'est pas facile. Hein. Neymar, c'est pas facile pour lui. Il a joué pourtant en Liga avec les meilleurs joueurs du monde.
Mais c'est pas le même jeu.
Exactement. Non, c'est pas le même jeu, mais c'est pour dire que la Ligue 1, le football n'est peut-être pas le meilleur football, c'est pas un jeu léché, etc. Mais c'est un championnat qui est compétitif. Faut pas l'oublier. Je trouve qu'on a, on a tendance à se
dire. C'est le PSG qui fait briller le championnat. Il n'y a pas d'autres équipes.
Les
autres équipes font rien.
Tu ne trompes pas au niveau du football français. Moi, je te le dis, tu te trompes pas, parce que quand tu regardes les résultats qu'on a,
On a quoi
en Coupe d'Europe?
On a quoi? On a rien, justement.
On a deux équipes ont été demi-finalistes la saison dernière. Ouais, Lyon et le PSG.
C'est l'exception. Lyon, c'est l'exception. Regardez comment ils jouent. Ils jouent comme des gens, comme tout le monde, en fait. Mais en jouant comme ça, tout le monde passe, en fait. Ça, je comprends pas. Parce que s'il faut jouer comme ça, avec une base solide, c'est pas compliqué.
Tactiquement, pour les joueurs qui viennent en France, c'est très, très dur. Quand tu vois Yılmaz, aujourd'hui, tu sens qu'il s'impose.
Bah oui.
S'impose, mais
il a du vécu derrière lui.
Les joueurs offensifs comme Neymar, tout ça, regarde aujourd'hui qui c'est qui casse la baraque à Paris. C'est pas Neymar.
C'est Mbappé.
Mais il a été formé.
Metz. C'est lui qui va mettre deux buts. Ouais. C'est qui? C'est le potentiel français.
Il connaît le championnat, il sait comment on joue.
Alors, le coach Étoilé est d'accord avec ça.
Pourtant, il est Neymar, il est plus respecté que Neymar, il est plus respecté que Mbappé.
Pourtant, le respecté.
Aujourd'hui, Neymar, il est prêt à renégocier, parce que il sait très bien que dans l'Europe, il n'y a plus d'argent. Et les seuls clubs où il y a l'argent, c'est pour ça qu'il est là. Il est en train de.
Il est quand même au début de carrière. Neymar, il arrive pas à la fin de sa carrière.
Mais il a 29 ans.
C'est une belle partie déjà. Donc c'est normal que Mbappé est plus coté sur le marché que Neymar.
Tu sais, c'est quoi une belle partie? C'est d'être compétitif dans les grands matchs de Ligue des Champions.
Et pour faire ça, quand même, Neymar.
Tu prends un joueur comme.
Il y a des années à Neymar.
Tu prends un joueur comme Eden Hazard qui a été acheté 100 millions au Real de Madrid. Aujourd'hui, il n'apporte rien au Real de Madrid.
Oui, ça t'étonne?
Ah non, ça m'étonne pas. C'est pas des travailleurs comme Neymar. C'est pas des travailleurs, c'est pas des bosseurs. Et quand t'es pas un bosseur et quand t'es pas un travailleur, tu mérites pas.
C'est plus dur.
Ça se termine. Allez, justement, nous, on va entamer notre interview avec l'invité de ce soir de Timesport.
Timesport. The Special One.
Eh oui, ce n'est autre que Cyril Benzaken qui est avec nous, le champion de kickboxing, qui emmène justement les combattants, mais aussi ces événements dans des endroits les plus insolites. Mais aujourd'hui, avec la crise sanitaire, Cyril, comment ça se passe? On a beaucoup de jeunes athlètes d'école, que ça soit dans la boxe, dans l'arts martiaux, qui sont à l'arrêt. Et aujourd'hui, on se demande comment donner, on va dire encore, de l'amour, donner ces moments de convivialité dans les endroits où qui étaient bondés, mais qui sont en plein arrêt total, quoi.
Alors, c'est vrai que ça va bientôt faire un an et demi que beaucoup d'athlètes français, notamment dans les sports de combat, se sentent délaissés.
Surtout ça, c'est le mot, délaissé.
Voilà, délaissé par le ministère des Sports, par l'État qui accompagne pas forcément tous ces athlètes qui sont dans le besoin, parce que il y a énormément de boxeurs de haut niveau, alors peut-être pas les tops, mais qui ne vivent pas pleinement de leur sport et qui ont une petite activité à côté et qui du coup en fait avec ce Covid ont été totalement arrêtés sur leurs deux activités et donc souffrent vraiment de cette crise sanitaire. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir des conditions privilégiées où je peux poursuivre mes entraînements sur le plan physique et technique avec des infrastructures qui me sont ouvertes. Mais c'est vrai que le premier confinement qui par exemple a été un vrai confinement, moi je l'ai vécu comme un peu un rappel aux sources, et ça m'a un peu rappelé mes débuts où je m'entraînais sans savoir où j'allais aller, enfin où juste je rêvais d'avoir des résultats, mais j'avais pas de compétition précise. Et là c'était un peu la même chose parce qu'on n'avait pas de, on a toujours pas d'ailleurs de visibilité précise sur une réouverture et un redémarrage. Mais donc bah beaucoup de courage à tous les athlètes qui nous écoutent.
On pense fortement à eux, Cyril. Vraiment, si je peux me permettre, avant de donner, allez, je vais donner la parole à Frédéric. Vas-y, Frédéric.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, mentalement, comment tu fais pour tenir sans avoir de visibilité sur le futur?
Alors, le temps, c'est intéressant parce que finalement, le fait que le temps est un peu arrêté parce qu'on n'ait plus de visibilité sur... Alors maintenant, on commence, mais on va dire il y a encore 6 mois, ça te permet de travailler des nouvelles choses techniquement. Et quand tu as toujours une date, tu as toujours un combat, t'as une planification de préparation qui fait que ça se ressemble, etc. Et finalement, d'avoir du temps, ça te permet de te dire, tiens, je vais travailler sur tel registre technique que je n'ai pas pris le temps de développer pendant mon cursus parce que j'étais bloqué sur le combat. Et donc, en fait, il faut se servir de ce temps pour travailler des nouveaux axes et travailler d'autres choses aussi en dehors de la boxe, quoi.
Une réaction, justement. On avait reçu, Cyril Benzaken, Bernard Hamsalem, l'ancien président de la Fédération d'athlétisme, et il nous disait justement qu'il fallait peut-être réformer le sport en France, les écoles. Comment peut-on mener, on va dire, l'évolution du sport dans les écoles, mais aussi dans les mœurs? Parce que c'est vrai que vis-à-vis de nos voisins européens, vis-à-vis par exemple de nos voisins américains, le sport est en recul, quoi. Est à l'arrière, si je peux me permettre, Cyril. On n'arrive pas à l'apercevoir, rien que dans les écoles. On a juste 1 heure, 2 heures, voire 4 heures maximum, que là-bas, par exemple, on a toute une après-midi.
Bien sûr, et alors en plus tu connais mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir faire un double parcours parallèlement à ma carrière sportive.
C'est ça.
Et en fait ce que je regrette, c'est que on n'arrive pas encore aujourd'hui à prendre en compte, en fait, si tu veux, les compétences que développe un sportif, parce que quand tu vas à l'école, en fait, tu développes une partie de ton cerveau à prendre de la connaissance. Mais quand tu montes sur un ring ou quand tu fais différents sports, tu développes ton intelligence émotionnelle, ta capacité à t'adapter dans des situations. Et tout ça, c'est des facultés qu'on ne sait pas encore retranscrire et te dire, grâce à ces facultés, tu équivaux à un étudiant lambda qui a, je sais pas, telle moyenne. Et donc, faudrait qu'il y ait des espèces d'accompagnement, de mentoring qui te disent, tel sportif de haut niveau, on fait un audit de comment il excelle dans son sport, etc. Et comment il va pouvoir retranscrire ses facultés pour lui permettre de faire un double parcours et se savoir que lui, finalement, il a plein d'autres compétences que n'a pas un étudiant lambda, et donc lui permettre pour la suite, d'après ses études, de l'ouvrir des portes.
Réaction avec Boula, avec Mèche, le coach étonné, peut-être.
Moi,
et Fred.
Moi, je voudrais avoir... Moi, je trouve que l'analyse que tu as fait par rapport à la psychologie, moi, je trouve que c'est très, très bien. En plus de ça, tu fais de la boxe taille, et en plus de ça, tu mets le doigt où il faut psychologiquement gérer l'enfant. Et moi, je voulais savoir, en ce moment, tu t'entraînes, et est-ce que tu descends des fois, tu fais travail en tant qu'entraîneur de jeunes, de gamins, parce que je trouve que. Je trouve que quand même tu as une sacrée réflexion là-dessus qui est très pointilleux là-dessus. Et moi, j'ai rarement vu des sportifs avoir un dialogue comme ça. Je connais pas ton niveau intellectuel, mais je pense que.
Non, mais on n'est pas là pour lui rétablir le CV.
Ça fait plaisir qu'un sportif.
Très intelligent.
Il parle de la psychologie de l'enfant.
Il a toujours fait,
c'est vrai. C'est super gentil, merci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Moi, je me focus sur moi, je suis un peu égocentrique et sur ma carrière, donc je prends pas le temps de transmettre, si ce n'est en fait au staff qui m'accompagne, donc à tous mes partenaires d'entraînement. Et c'est vrai que parfois, je pense que je suis dans une phase de carrière où je suis de bons conseils parce que je suis arrivé à maturité en tant que sportif, et donc ben, je ressens les erreurs que peuvent faire des jeunes athlètes parce que elles sont de il y a pas longtemps, elles datent de il y a pas longtemps, et donc c'est le bon moment pour conseiller, mais c'est pas toujours facile, tu vois. Des fois, t'as besoin de faire les erreurs.
Non, ouais, mais
pour
t'as un ego, mais un ego intelligent, parce que toi, quand même, tu restes quand même, tu restes quand même essayer d'être un sportif et essayer d'avoir des résultats pour toi-même. Ça, c'est très très bien. Mais quand même, t'as ce, tu vois, quand tu parles, tu dis, quand je vois les jeunes aujourd'hui, tu sens qu'il y a, t'as de l'adulte dans ta façon de fonctionner. Ouais. Et moi, je trouve ça très très bien de ta part, de, surtout pour un sportif qui fait. Et en plus de ça, la malchance que vous avez, la boxe thaï, c'est que, à l'époque, il y a peut-être 10 ans, tu as connu Sami Khepchi, et c'était très médiatique. Il y avait Canal derrière.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, c'est plus. Après, t'as l'UFC qui arrive derrière, tu vois, et c'était quand même. C'était des beaux combats. On voyait des très très beaux combats de boxe thaï.
Il y a de belles réunions aussi.
J'espère que tu vas nous faire revivre toutes les années qu'on a pu passer.
Il en fait avec Canal.
C'est ce que j'essaye de faire. Mais effectivement, aujourd'hui, j'essaye par rapport à la jeunesse, j'essaye plus de m'intégrer sur le levier de. Du leadership et de les encourager, on va dire, sur l'aspect mental à faire ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit dans la boxe, que dans d'autres domaines, que sur des conseils vraiment techniques, stratégiques, pure boxe. Tu vois, ça m'intéresse plus aujourd'hui de, bah, par exemple, de monter une école et de faire une formation où on fait une prépa, comme une prépa HEC, mais on fait faire du sport. Tous les jours.
Ça me fait penser tu sais, à Sarah, la petite boxeuse qui a fait les Jeux
Olympiques. Sarah Ramon.
Mais tu vois, Sarah, elle a un peu la même réflexion, tu vois, aujourd'hui.
Non, mais je suis d'accord.
À côté, il y a une scolarité, il y a une éducation,
Mais tu sais, il y a des choses.
Tout est lié, hein.
Bien sûr. Et il y a des choses qui sont pas normales. C'est-à-dire que. On est à l'école pour éduquer notre cerveau, lui faire acquérir des compétences. Notre corps, on s'en sert aussi bien. Et on te donne 2 heures de sport dans une semaine, ça veut rien dire. Deux heures de sport par semaine. Si on te donne 2 heures d'une matière, enfin, quelque chose pour qu'il soit efficace, faut qu'il soit quotidien. Les dents, je me les brosse pas une fois par semaine, tu vois, je me les brosse tous les jours, sinon.
Alors, réaction. Allez, peut-être avec Fred Vignesh. Allez, une réaction avant la pause et de le laisser filer à notre invité, Cyril Benzaken.
Vous parlez de vous parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de vous malgré tout.
Toi aussi, tu veux savoir quoi, son CV encore une fois, mais vous allez arrêter là.
On sait très souvent que les boxeurs, enfin, ils commencent à faire cette discipline parce qu'ils ont un parcours un peu hors du commun, enfin, ils ont vécu des choses. Comment vous avez atterri dans la kickboxing du coup, vous ?
Alors, en fait, c'est un peu par hasard. Je voulais faire un sport de combat. J'avais 13 ans. À l'époque, j'étais plutôt un jeune adolescent qui avait pas trop confiance en moi et donc j'avais envie de m'orienter vers un sport de combat qui me réveille. Et en fait, quand je suis rentré dans la salle de boxe, je sais pas, ça s'explique pas, mais j'ai ressenti quelque chose de très très fort et je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je me voyais déjà être champion et je rêvais. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est quand t'as un rêve.
Il faut le faire.
Ce déclic. Il y a des gens qui t'ont accompagné là-dedans. Tes parents,
Non, alors malheureusement, ils m'ont accompagné. Ils m'ont pas fermé les portes, mais.
Ils t'ont donné une bonne éducation.
Ouais, c'est gentil.
T'as jusqu'au master, quoi.
Ils t'ont donné une bonne éducation.
J'étais jusqu'au master parce que justement, pour mes parents, la boxe n'était pas un métier.
Un métier.
Et quand j'ai commencé la boxe. Ils se sont dit, c'est bien mon fils, tu vas faire du sport, tu vas être musclé. Mais quand j'ai commencé à leur dire, ouais, mais je veux faire des combats, je veux faire des trucs, ils sont devenus fous parce que culturellement, le sport, c'était pas un métier dans ma famille, tu vois. Yep. Et du coup.
Il fait bien d'en parler,
c'est vrai. Ils m'ont poussé à faire des études. Et donc, en fait, la faiblesse que j'avais de me dire, il va falloir que je fasse autre chose à côté, c'est devenu une force parce que les études aussi, elles m'ont appris à être organisé dans ma carrière de sportif, etc. Plein de choses qui me servent. Et pareil à l'école, le sport m'a aidé pour faire mes études.
Alors on va terminer avec toi.
On peut dire que le jour où tout ça s'est un peu symbolisé, c'est quand tu as organisé ton premier combat à Dauphine, où tu as ramené à peu près 800 personnes. Ouais. Je sais que tu es assez caméléon, que tu organises des événements.
Oui, carrément, et le promoteur aussi.
Que tu es mannequin, que d'ailleurs tu es ambassadeur de la CM. Marque,
il est beau gosse, Cyril.
Il est beau gosse.
Ouais.
Donc, ton mentor, on peut dire que c'est Aurélien Duarte. On sait qu'il a fait un peu de cinéma. Tu le verrais dans 10 ans, pourquoi pas,
faire
du cinéma.
Non, mais c'est sympa. Les événements, tu vois.
Quand tu t'en es aussi, c'est un comédien.
Comme ce que tu disais, moi, j'ai grandi avec les événements que je regardais à Vegas, que je voyais à Paris dans les grandes soirées. Et quand je boxais dans des réunions, j'étais pas forcément fan des rayons dans lesquels je boxais. Je me suis dit pourquoi pas essayer de m'auto-produire comme un artiste. Et en fait, j'ai fait cette première réunion qui a été genre un peu ma révélation. Et j'en ai refait au Palais des Sports, on l'a rempli.
Au Dôme de Paris.
Au Dôme de Paris. Et donc, je suis très fier aujourd'hui de savoir qu'on a réussi à re-remplir des salles, peut-être pas aussi bien, et, enfin différemment en tout cas qu'à une certaine époque, parce qu'on n'a pas cette force médiatique derrière nous. Mais en tout cas, avec les réseaux sociaux qu'eux n'avaient pas, avec d'autres, d'autres verticales, on arrive à pousser. Et c'est vrai que le cinéma, j'en parle pas beaucoup parce que je suis réservé sur mes rêves, mais comme je l'étais à l'époque. Quand je rêvais de devenir champion.
C'est des bons rêves, parce que regarde, à l'arrivée, quand tu avais 13 ans, tu avais besoin de cette force, et tu as été la chercher.
Bien sûr.
Ça t'a débloqué aussi un peu.
Ouais.
Et c'est tout un travail. Je veux dire,
bien sûr.
Si tes parents nous écoutent, je les félicite, parce que ils t'ont donné une éducation scolaire, et par contre, ils t'ont laissé.
Ils m'ont autorisé. Exact.
Voilà, ils t'ont autorisé, puis ils ont compris que leur fils, ils avaient besoin de ce sport pour,
bien sûr.
Pour se développer. Et puis, ce qui est bien, c'est que t'en fais un côté professionnel.
Ouais, bien sûr.
Puis ça te met en confiance, et puis ça te donne un équilibre, et ça te donne.
C'est une
pas faux. Ouais. Bon, là, c'est rare, hein. Elle est subjuguée ce soir par notre invité. Alors, on va terminer avec toi, Frédéric.
Ouais. Avant le cinéma, du coup, est-ce que tu as des objectifs à court terme?
À court terme, écoute, continuer de développer. Alors, en tant que producteur et combattant, c'est-à-dire que moi, j'ai uniquement produit en France. Donc, on devait produire à Monaco. Mais il y a eu le Covid, donc l'idée c'est de commencer à me développer en tant que producteur et boxeur à Monaco, Dubaï, Miami et finir à Las Vegas. Mais je le ferai, et du coup,
on l'espère, on lui souhaite à Cyril Benzaken, grand champion, on le rappelle, 5 fois champion du monde. C'est bien ça, Cyril Benzaken qui a été avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM, une courte pause.
Un bon moment avec toi.
Nous aussi, et même les auditrices et les auditeurs qui le pensent, Boula. Il revient quand il veut, Cyril Benzaken. Vous restez avec nous, on reparlera de la fameuse Ligue des Champions. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, toujours en compagnie de Frédéric, de Boula, de Viknesh, le coach Tollet, et Fred pour m'accompagner. Allez, on prend le chemin de Barcelone.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, une finale épique. Eh oui, Nadal a fait le show hier, hein.
C'était un combat, plus de 3 heures de jeu. Et Nadal, il arrive quand même à s'en sortir. Il gagne un 12e titre à Barcelone, son 87e en carrière. Alors, il a été bousculé pendant tout le tournoi. Il a perdu la semaine dernière à Monte-Carlo. Tsitsipas, lui, a gagné Monte-Carlo, avait battu Nadal à l'Open d'Australie, là, en Grand Chelem, il y a quelques mois.
Donc,
Nadal, clairement, n'était pas en confiance. Il avait besoin de ce match pour se mettre en confiance et pour retrouver ses repères. Et là, je pense qu'il va encore être favori, comme d'habitude, à Roland-Garros. Il a envoyé un message à la concurrence. Clairement, il va avoir 35 ans dans moins de 2 mois, mais il est encore là. Et Tsitsipas, il a compris qu'il fallait bosser. Il a du potentiel, mais il va falloir voir Djoko aussi, qui va être présent dans les autres Master 1000 là, qui vont démarrer la semaine prochaine et celle-ci. Mais Nadal à Roland-Garros, ça risque d'être encore très difficile à battre.
Ouais, Federer aussi.
Il va faire son retour. Non, mais Federer va faire son retour à Roland. Il a été absent pendant pratiquement une année. Il a fait un match. Il a fait un match quand même cette saison. Je pense que Roger, ça va être difficile. Il s'approche des 40 ans.
Très, très dur.
Physiquement, ça va être difficile. Mais c'est toujours Roger. On n'est pas à l'abri d'un miracle à la Federer.
Ok.
Mais bon, en tout cas, s'ils sont encore là, c'est que le cachet doit être bon aussi. Après, le problème,
de
cet Ellis Pan pour que les valeurs du tournoi. Ils ont besoin d'avoir toujours des. C'est pour ça que Federer, il est là, 40 ans.
Très performant.
Nadal, il a 35 ans. Et en termes d'image, ça leur fait de la grosse pub d'avoir
ces
mecs-là à Roland-Garros. Oui, mais ils peuvent pas répéter.
C'est pour ça qu'ils s'est laissé mettre aussi.
Ouais, mais si tu remarques bien, ils sont là parce qu'ils gagnent. S'ils avaient 35 ans et qu'ils perdaient au premier tour, on les verrait plus.
Panique fermée.
Des mastodons de la planète tennis.
Ils vont être bons sur un tournoi, mais sur 2-3 tournois.
Si tu regardes ceux qui gagnent, qui ont gagné tous les derniers grands chelems, c'est Federer qui a gagné il y a quelques années. Nadal, Roland Garros encore l'année dernière.
Pour avoir les budgets, pour avoir l'argent qui tourne sur le tennis, ils sont obligés d'avoir fait l'éclat.
Ah, mais qui gagne?
On a quitté les terrains et on part sur la sphère business, et oui, avec Boula. Mais on va rester en Espagne, Boula. On va rester plutôt dans la capitale espagnole.
Time Sport,
Les prolongations.
Allez, vas-y, Fred, fais-toi plaisir. Le Real sera en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est Zinedine Zidane qui le dit.
Oui, le Real Madrid sera en Ligue des Champions la saison prochaine, je pense. Je ne pense pas que Seferin, son but, c'est d'exclure ses clubs. C'est quand même des locomotives. Lui, il aimerait bien qu'on trouve un compromis. Moi, pour le coup, Seferin, encore avant cette crise, j'aimerais bien avoir votre avis, mais encore avant cette crise, moi, j'avais un peu, voilà, que ce soit lui ou Infantino, j'avais quelques réserves sur eux. Que Seferin, je trouve qu'elle a quand même plutôt bien géré cette crise. Et le Real Madrid, Florentino Pérez, qu'il le veuille ou non, c'est lui qui a le plus, enfin, qui s'est plus mouillé hein, dans cette affaire. Et qu'il le veuille ou non, il faudra un moment qu'il présente ses excuses ou qu'il trouve un compromis. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, de jouer sur les termes du contrat, ça va pas passer longtemps, je pense, avec Seferin.
Moi, j'aimerais en fait en savoir plus sur les recettes de l'UEFA, de la FIFA.
Ouais.
Et à partir de là, je pourrais analyser en toute transparence. Parce qu'en fait, là où ils ont été plutôt bons à droit, et très bien, hein, donc il n'y aura certainement pas de Super League. La Ligue des Champions, il ressemble quand même fortement. Mais moi, j'ai envie de savoir un petit peu comment c'est géré. De là, on pourra éventuellement analyser. Moi, j'ai du mal un petit peu à... moi, je reste quand même partagé. Je ne suis pas d'accord avec la Super League qui puisse voir le jour, parce que c'est du grand n'importe quoi. En même temps, ce que propose l'UEFA, je suis pas d'accord non plus. Enfin, moi, c'est pas le foot que je vois, donc j'attends d'avoir un peu plus d'informations, d'éclaircissements. Et pour le moment, il y en a pas. Ça les arrange comme ça. Il y a plus de Super League. Ils surfent sur ça, bah très bien. On continue dans ce football business.
Mais c'est politisé.
Quand tu dis football business, quand tu vois un mec comme Nasser Al Khelaifi. Aujourd'hui, le Qatar, la Coupe du Monde, c'est en 2022. Lui, sa stratégie, c'est quoi? Sa stratégie, c'est pas de se, en termes d'image, c'est pas de se mouiller. C'est pas de se mouiller. Tu prends Seferin, ils sont du côté de Nasser. Il l'a remercié, je sais plus combien. Je sais plus combien de fois il l'a remercié. mais là, tu sens que, après, tu sens qu'il y a un arrangement entre eux. C'est une machine. La Coupe du Monde, la FIFA, ils l'ont donnée au Qatar. Et aujourd'hui, quand tu regardes, c'est toujours la même assiette. Il y a une grosse assiette. Et qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est des intérêts politiques. Parce que le Qatar, on peut dire, la Coupe du Monde, elle est basée plus sur la politique que sur le football. Oui. Elle est basée plus sur la politique que sur le football. Et aujourd'hui, quand tu regardes Nasser, il a su prendre position dans l'intérêt du Qatar et dans l'intérêt du football mondial. Il a besoin des supporters du monde pour avoir cette vue du Qatar. Et je pense que c'est très très bien réfléchi. Ouais. Et il y a beaucoup de psychologie là-dessus.
Okay, politique.
Et c'est pour ça que l'UEFA.
Je n'ai pas vu la psychologie. J'ai plutôt vu l'intérêt.
Ouais,
tout
l'intérêt
simplement.
Selon toi,
patron, oui, boss de beIN Sports, forcément. Qui diffuse la Champions League, c'est beIN Sports.
Justement, demain.
Ils ne pouvaient pas, de toute façon, se positionner en faveur de la Super League.
Ils ont les reins solides aussi.
Ok. Tu prends quelqu'un comme Florentino Pérez. Tu prends quelqu'un comme Florentino Pérez.
Son intérêt, c'est le Real Madrid. C'est son argent, en fait, lui. C'est le business.
Son club, c'est le Real de Madrid, mais il faut qu'il sache qu'il y a. Quand je disais avant que ça explose, j'avais dit que Florentino Pérez, il vient d'arriver dans le football, il gère le Real de Madrid depuis 10 ans. Mais... c'est un homme d'affaires. Il gère, mais il faut que tu saches que le football, c'est politique. Tu prends la FIFA, c'est un État.
Non seulement c'est un État, mais je vais aller plus loin, c'est une mafia.
Aujourd'hui, c'est une mafia, mais regarde.
Mais clairement, Pérez n'était pas prêt à affronter, en fait.
C'est une mafia, mais donc la mafia l'a touché. Au cœur de l'Amérique, ils te les ont tous dégagés de FIFA.
Non. Là, part dans la sphère géopolitique, on va arrêter parce que demain il y a déjà la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Il y a pas mal de journalistes espagnols qui ont fait des débats.
Claude, tu veux parler? Tu peux laisser parler Claude?
Oui. C'est vrai qu'on va revenir au terrain. Alors, ce qu'ils disent, c'est vrai. Non, mais l'anecdote, c'est que moi, par exemple, demain, j'ai un cours à donner.
Je te comprends, Bilal, je te comprends.
Un master sur la mondialisation.
Au niveau de ta gestion politique, je comprends.
Et la partie FIFA JO fait partie, justement, Ouais. C'est non, mais c'est important de le savoir, malheureusement, mais ça fait partie du jeu.
J'ai peut-être pas la science exacte, Bilal. Après, je te comprends que on est plus à parler de sport que de politique. Mais bon,
je te comprends.
Mais faut que tu saches, nos auditeurs qui aiment beaucoup Beurre FM adorent savoir des vérités.
Mais on peut parler. On peut parler de la géopolitique dans le sport.
Il y a des gens qui écoutent.
Il n'y a pas de problème.
Il y a plus de 5000 personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ils aiment bien avoir une analyse.
Des millions de personnes.
Et c'est ça qui fera la.
Alors, je vais revenir à cela. Il n'y a aucun souci. On peut parler des États-Unis, de n'importe quel pays, et même du sport dans tout cela. Il n'y a aucun problème.
J'aime tous les pays du monde. Hein.
C'est juste, mais nous aussi, c'est juste que demain, on a déjà la première demi-finale qui opposera entre le Real Madrid et Chelsea de Thomas Tuchel, Viknesh. C'est bien cela. Et j'aimerais revenir à ça, et sans oublier aussi mercredi soir, le Paris Saint-Germain qui accueillera Manchester City.
C'est ça. Donc, on a deux très belles affiches. Et pour commencer par le Real Chelsea, je pense qu'il y a une opposition de style avec Zidane et Tuchel. Zidane qui répond toujours présent dans les moments importants, avec les joueurs aussi comme Modric, Benzema, etc., Kroos, qui sont là, qui reviennent en forme. Donc je pense que ça peut faire quelque chose de très intéressant sur le terrain. Ils peuvent s'adapter. Chaque fois, ils arrivent à contrôler les situations difficiles. Bon, on a vu contre Liverpool, ils ont su faire la différence. Ils ont bien défendu. Ils ont fait mal quand c'est nécessaire. Et Chelsea, avec Tuchel qui est revenu depuis le mois de janvier, qui fait du bon travail, qui fait du bon football, il a des joueurs qui sont en confiance, ça peut faire mal aussi, donc c'est assez équilibré pour moi, je pense, même si le Real est légèrement favori grâce à son expérience, avec les joueurs qui sont qui ont énormément d'expérience et qui savent c'est quoi la victoire et qui veulent gagner cette saison pour faire le doublé aussi avec le championnat, c'est jouable pour eux, mais je pense que Chelsea a son mot à dire et ils peuvent faire la différence et perturber le Real, pourquoi pas, pour aller en finale. La deuxième fois pour Tuchel en deux ans, ça serait bien pour lui.
Ouais, ça serait pas bien pour le Paris Saint-Germain s'ils se rencontrent en finale.
C'est jamais, ce serait une bonne
revanche pour Tuchel.
Ce serait bien pour
ça serait bien pour un coach moyen en France, jugé coach moyen en France.
Ah, je sais pas.
On est le seul pays à juger les coachs de la sorte.
Non. En tout cas, il y a une différence entre la gestion du PSG et la gestion de Chelsea. À Chelsea, il a les clés. Et au PSG, il n'avait pas les clés. Tu vois la différence de.
Ce qui est intéressant, c'est que ce fameux coach moyen, cette saison, il a déjà battu Simeone, il a battu Guardiola, il a battu Mourinho, il a battu Klopp. Mais au final.
Il reste moyen.
C'est là la force du football. C'est quand t'as un entraîneur qui a les clés, Tuchel, il vient parce qu'il a fait des choses extraordinaires à Dortmund. Quand il vient à Paris, Paris, c'est très très dur à gérer. C'est très très dur à gérer. Et tous les entraîneurs qui sont arrivés, et quand tu vois quelqu'un comme Tuchel arriver à Chelsea, les mettre où il les a mis, et être en demi-finale de la Ligue des Champions, il a transformé l'équipe. Même Thiago Silva, il est même plus dans les 11 du départ. Heureusement qu'il nous a pris cœurs humains, il est en train de nous il est en train de nous découvrir le grand cœur humain.
Il fait un travail remarquable, Tuchel. Chelsea a maintenant une assise défensive qu'ils n'avaient pas depuis quelques saisons. Offensivement, c'est vrai que c'est pas leur point fort, mais c'est une équipe qui a un bloc bas qui va gêner forcément le Real Madrid, qui aime bien faire des attaques placées, se servir de leur vitesse. Donc je pense que c'est une équipe qui va leur poser beaucoup de problèmes, qu'il va pas falloir sous-estimer, parce que Chelsea a des cartes à jouer. Et je pense que si le Real prend ce match un petit peu de haut, Chelsea peut créer la surprise et aller en finale. Je pense que le Real reste favori, mais je serais pas surprise que Chelsea fasse un résultat.
T'arrives jamais en demi-finale de Ligue des Champions par hasard. Hein, donc ça reste du 50-50, même si vous l'avez dit, le Real, de par son expérience, de par cette capacité à gérer les grands rendez-vous, a une petite longueur d'avance, mais ça reste une demi-finale de Ligue des Champions, donc vraiment tout est possible et Chelsea peut très bien créer la surprise et aller en finale. Hein.
Non, mais c'est clair que je suis d'accord avec toi, Claude, et c'est vrai que moi, je pense le match, il va jouer au milieu de terrain. Parce qu'à Chelsea, ce qui fait leur force, c'est le double pivot, Kovacic, Kanté, Jorginho. Et le Real Madrid, ce qui fait leur grande force cette saison et ce qui font que l'équipe tient, bon, au-delà de cette équipe qui est très soudée, c'est ce milieu de terrain, Kroos, qui fait une saison magnifique, qui fait une de ses plus belles saisons alors qu'il était enterré. C'est Modric et Casemiro qui sont très très bons. Après, le Real Madrid, c'est le club qui, c'est leur championnat, enfin, c'est leur compétition, la Champions League. Ils ont quand même je pense qu'ils sont quand même favoris, mais ça va être un beau match. Et Chelsea, c'est vrai que moi, je ne les attendais pas à ce niveau-là.
Ils sont favoris, mais quand tu regardes le match Real contre le Betis, ils ont eu du mal. Tu prends l'entraîneur du Betis, il a joué très compact, ils n'avaient pas d'espace. et ils n'y arrivaient pas. Ils n'ont pas trouvé la solution au niveau. Quand il fait rentrer Eden Hazard, il me faut un mec qui provoque, qui arrive
pas
à rentrer.
Mais
quand tu regardes le match tactiquement comment il a été fait, je pense que Tuchel il a vu le match. Maintenant, je pense qu'il a une idée sur comment il va
tactiquement,
pas
laisser, il peut. Ouais.
Parce que le Real, tu leur laisses pas d'espace. Ils ont plus cette force.
Oui, mais ils se transcendent lors de grandes soirées européennes, Boula.
Le Real Madrid. Ils ont fait 0-0, ils perdent 2 points chez eux.
Je rejoins Boula sur ça, Frédéric, et c'est vrai que contre Retafé, il y a 2 journées de ça, pareil, ils avaient eu du mal. Mais le Real en championnat et le Real en Champions League, c'est pas le Real, mais le même
Real.
Ouais,
c'est ça.
Là, quand ils jouent leur compétition, on a l'impression qu'ils sont transcendés. C'est pas la même équipe qu'on retrouve que celle qu'on voit en Liga. Donc moi, je pense que le Real, comme d'habitude, ils vont se transcender et ils veulent cette Champions League avec tout ce qu'il y a eu encore avec la Super League, etc. Je pense qu'ils veulent encore plus cette année montrer que ils sont le Real Madrid, ils peuvent encore gagner cette compétition. Et je pense que ça va être un match très difficile.
Je serais content pour Zidane, mais quand je vois le match contre le Betis, je mets physiquement, je sens qu'il y avait un manque de quelque chose. Et j'ai peur qu'il retrouve.
Ça manque de turnover.
Qu'ils vont se retrouver dans une situation comme le même match du Betis.
Le problème au Real Madrid, c'est ça manque de joueurs, tout simplement. Alors, ils font rentrer beaucoup de jeunes en ce moment, Hugo Duro, Blanco. Mais le problème, c'est que Benzema, c'est l'offensive numéro 1. Derrière, c'est qui? C'est Vinicius qui a mis quelques buts cette saison, qui progresse, qui est jeune. C'est Rodrigo, c'est Asensio qui fait une bonne saison.
Hazard qui est blessé tout le temps.
Hazard, bon, je compte pour moi cette saison, c'est une saison blanche pour lui. Et le Real Madrid. Deux saisons blanches. Moi, Eden Hazard, je retiens aucun match de lui au Real Madrid. Non, ouais. Il a fait aucun bon match, peut-être un ou deux.
Il aurait dû mettre le paquet sur De Bruyne.
Non, mais le problème, c'est que le Real Madrid.
C'est pas terminé.
Leur arme offensive, je pense que c'est Zidane.
Ils vont prolonger.
Et on peut voir qu'il a rouspété en conférence de presse, Zidane. Il est harcelé par les questions de la presse sur la Super League. Et je pense qu'ils vont bien réagir sur le terrain, le Real Madrid.
Ouais, on verra bien.
Justement. J'ai vu la presse espagnole poser beaucoup de questions sur l'arbitrage à cause se disant est-ce que l'UEFA peut porter préjudice au Real Madrid. C'est le gros débat du moment. Ça va être un gros.
On a parlé du Real et de Chelsea.
Je suis d'accord avec toi parce que je pense que Paris.
Justement.
Ils vont trouver Paris en finale. Je pense qu'il y a des trucs qui vont pas.
On verra.
Par rapport à ça.
On l'espère en tout cas. On va s'attarder sur les Parisiens. Les Parisiens justement qui rencontreront Manchester City. Eh oui, Keylor Navas, le portier. Parisien qui rempile avec son contrat jusqu'en 2024, Frédéric, et oui, Vic-Neige. Et on pourra compter aussi sur le gamin de Bondy, Kylian Mbappé. Paris peut-il le faire facilement en finale face à Riyad Mahrez et les hommes de Pep Guardiola, le coach étoilé?
Facilement, non. Par contre, le PSG montre quand même une force assez incroyable sur la période de Ligue des Champions, sur les phases aller-retour. Mbappé a été quand même pas mal critiqué en première partie de saison. On a entendu beaucoup de choses à son sujet, mais à juste titre aussi, parce qu'on attend beaucoup de ce joueur. C'est impressionnant. Et puis il y a une force quand même collective qui dégage le PSG, qui font que, pour moi, ils sont légèrement favoris, je dis bien légèrement. Parce qu'en face, même si tu vas voir un De Bruyne peut-être absent, même si on se pose encore des questions sur
il a joué, il était brillant en finale de coupe de la Ligue
qu'on attend à City maintenant City quand même
c'est
une chance là pour eux de pouvoir disputer une finale.
Ils sont proches aussi.
Mais ils sont proches aussi, donc c'est une opportunité.
Une très bonne saison.
Et ça se jouera. Ça va se jouer.
Au niveau qualité intrinsèque, c'est le meilleur potentiel mondial. Aujourd'hui, quand tu vois tous les joueurs à Chelsea,
de Manchester City.
Le danger vient de partout.
Le danger vient de partout. Eh ben là, on pourrait parler de géopolitique dans le sport. Eh oui, les Émiratis face au Qatar. Eh oui, là, c'est un beau sujet. Là, on pourrait en parler. La guerre en douce.
Les Émiratis. Alors, la différence, c'est que les Émiratis, ils ont donné les clés à Guardiola. Ils lui ont dit, écoute, tu gères la machine, c'est toi le patron.
Nous, on a dit sur le Paris Saint-Germain.
Pour finir, City vise quand même un triplé. qui serait historique pour eux et une potentielle Champions League, ce serait la première de leur histoire. Je pense qu'ils vont jouer, c'est un type d'équipe qui est un peu comme le Bayern Munich. Ça veut dire qu'ils ont une forte possession de balle. Ils vont jouer quand même. Voilà, ils vont se projeter très vite vers l'avant, mais le PSG, ils vont pouvoir les prendre dans la profondeur. Avec, on a vu comment Mbappé et Neymar ont fait lors du match contre le Bayern. Je pense que ça va être la clé. Et comme ils jouent à domicile, il va falloir éviter d'encaisser des buts. S'ils arrivent à faire un 1-0, je pense que ce serait bon.
Rapidement.
Je pense justement que les deux équipes vont marquer parce que c'est un match qui sera complètement ouvert. Et défensivement, on parle que comme quoi Mbappé et Neymar peuvent faire la différence. Faut pas oublier que City cette année, ils sont très très bons défensivement parlant, avec Diaz et Stone, même enfin ils sont très très bons défensivement, ils prennent très peu de buts. Diaz, il a solidifié la défense, donc je pense que ça va être difficile pour le PSG, même pour Mbappé, de marquer, mais ça peut le faire. Et je pense que City est favori, mine de rien.
Alors,
avec la machine de guerre que
Fred, il est pas d'accord avec toi.
Ils sont favoris.
Non, moi je suis pas d'accord. Moi je crois en déterminisme. Paris fait une très belle campagne, Manchester City fait une belle campagne, mais bon, ils ont sorti Mönchengladbach et ils ont sorti Dortmund, qui est quand même moins bon que le Bayern. Paris a beaucoup de confiance, et vous allez peut-être trouver que je dis n'importe quoi, mais je trouve que la manière dont Paris Saint-Germain joue me fait penser à la manière dont l'équipe de France joue en Coupe du Monde. Et Mbappé est parfait, il se trouve bien dans cette équipe, prend bien la profondeur. City va bien sûr jouer vers l'avant, il y aura de l'espace, et ce nouveau style de jeu que le Paris Saint-Germain a sous Pochettino devrait être quand même bien efficace face à Manchester City.
Ah bon, on verra bien.
Parce que Pochettino, il va pas presser très haut pour
City.
Merci Boula, Viknesh, Frédéric, notre consultante, sans oublier Fred et le coach Etolé de m'avoir accompagné.
Et je dis à ma mère, Sahaf Torek.
Ah ben nous aussi. On lui dit à ta maman.
À toutes les mamans.
Voilà, c'est ça. Comme le dit si bien Boula. Eh oui, le patriarche de cette émission. Nous, Isa.
Patriarche.
J'ai 47 ans.
Ouais, voilà, c'est comme ça. Des fois, je balance des mots comme ci, comme ça. En tout cas,
d'ailleurs, Fred, elle est morte de rire.
Ça le fait sourire.
C'est une guerre froide.
Ouais. Venant de Frédéric, je sais que c'est sympa.
C'est cool avec Boula et justement avec toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous restez à l'écoute de Beurre FM. Vanessa arrive à grands pas jusqu'à 1h du matin et nous, on se retrouve dès demain à partir de 22h. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.